Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, 13h-14h, Jacques Pessis.
Yann Arthus-Bertrand, sa Terre vue du ciel a obtenu un succès planétaire. Ce livre de photos est à l'origine d'une fondation à qui il consacre désormais l'essentiel de sa vie. Il y a aussi son combat pour la défense des animaux. Quand a-t-il débuté ? Dès ses très jeunes années. Des souvenirs parmi beaucoup d'autres que vous allez découvrir tout de suite dans ces clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Yann Arthus-Bertrand.
Bonjour.
Alors, on parle beaucoup de vous à cause d'un film de Legacy dont on parlera tout à l'heure. Il y a aussi un livre, Cap 2030, qu'on va évoquer. Et puis le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, ça remonte au 5 juin 1969. C'est votre première télé. On vous voit dans un parc animalier en train d'évoquer les animaux. Vous vous en souvenez de cet extrait ?
Je ne me souviens pas de l'émission, mais vous savez... J'ai eu une enfance très chaotique, j'étais viré de partout, j'étais vraiment un sale gosse, mes parents étaient, j'étais le gosse que les parents détesteraient avoir.
15 écoles je crois, non ?
Ouais, c'était terrible, je faisais deux écoles par an parce que j'étais viré.
Comment ça se fait ?
Mais je détestais l'autorité, je trouvais que ce qu'on m'apprenait ne servait à rien. Tous les gens vous parlent toujours du professeur qui leur a fait avancer, je me souviens de monsieur machin, de madame machin. Moi j'ai jamais rencontré ces profs, j'ai rencontré un peu des curés avec des mains baladeurs, mais c'est pas ça qui m'a fait dégoûter de l'école, c'était plus l'autorité. Mes parents étaient très aimants, une famille catho, 6 enfants, complètement perdus devant un gosse qui refusait tout. Je suis parti de chez moi très tôt, dans la rue, les flics m'ont ramené, après on m'a dit « laissez-le partir ». Et c'est drôle parce qu'un jour, mon père m'a dit, à la fin de sa vie, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « tu sais, quand tu es parti, ta mère, elle a pleuré tous les soirs ». Et moi, je n'avais pas donné de nouvelles à mes parents pendant une année, tu te rends compte. J'endormais plus. Un jour, je vais voir ma mère qui était malade dans un lit. Je lui dis, maman, je voudrais m'excuser. Je me mets à pleurer. J'avais 65 ans, tu vois. Je me mets à pleurer. Et ma mère éclate de rire. Et elle me dit, mais Yann, on pardonne tout à ses enfants. Ça m'a fait un bien fou qu'elle me pardonne sur ce que j'avais fait. Puis alors après, j'ai fait du cinéma.
Ça, on va en parler, mais...
Je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. Et j'ai vécu 10 ans, une histoire d'amour formidable dans l'Allier. Et donc, dont ce fameux film que vous voyez, je m'occupais d'animaux.
Voilà. Alors, il se trouve que les seuls moments où on va revenir un peu aux vacances avec vos parents, je crois que vous partiez en Bretagne en 403 avec toute la famille.
Oui, mais ça, c'était la famille classique française. Et la voiture. Au départ, mes parents, ils avaient le pick-up de la maison Arthus-Bertrand. Ce qui est inimaginable maintenant, on avait un pick-up 203. On allait à la campagne et tous les gosses étaient. On était tous les 6 dans la voiture. Mon petit frère était devant avec ma mère, pas de ceinture de sécurité, mais derrière, on était assis avec des cageots de pommes. Et on jetait des pommes sur les voitures, sur l'autoroute de l'Ouest. Inimaginable aujourd'hui de mettre un enfant dans un pick-up derrière, tu vois.
Alors, quand on se renseigne justement sur la famille Arthus-Bertrand, qui font, on le sait, des médailles, entre autres, on sait qu'en 1803, Arthus-Claude Bertrand, officier de l'armée impériale, ouvre une librairie sur les quais de la Seine. Il devient la maison d'édition officielle de la marine et il est passionné d'expéditions scientifiques.
C'est assez extraordinaire.
On n'est pas très loin. Hein.
Oui, parce que j'ai découvert... Alors, c'est drôle parce que mon grand-père et mon père, ça ne l'intéressait pas du tout. Et moi, j'ai retrouvé ces livres. J'ai été faire des scanners au musée d'histoire naturelle, il faisait le Géo de l'époque, le journal Géo de l'époque, c'est-à-dire qu'il racontait les bateaux qui partaient en expédition. Il était le libraire officiel de la marine royale et donc il faisait des livres extraordinaires. J'en ai quelques-uns et j'en ai surtout fait reproduire pour moi avec des dessins extraordinaires. Il a édité des centaines de livres sur les voyages, la Pérouse, quoi. Et c'est des grands livres extraordinaires avec des gravures inouïes en couleur. Et je me suis aperçu que mon arrière-grand-père, qui s'appelait Arthus de prénom et Bertrand de son nom, c'est mon grand-père qui préfère plus chic, a mis les deux noms ensemble par la suite, faisait le même métier que moi, en fin de compte, il racontait le monde.
Exactement. Et cette maison est aussi célèbre pour les pins, parce qu'il y a eu dans les années 60, après les porte-clés créés par Paulus Lutzer, les pins.
Oui, les pins, les pins dans les années 80, oui. 80-90.
Et le plus célèbre, ça a été « Touche pas à mon pins », qui parodiait le « Touche pas à mon pote » de Harlem Désir. Alors, j'en reviens à cette première télé, c'est dans une émission qui s'appelle « Haut et jeudi », parce qu'à l'époque, les congés scolaires étaient le jeudi, et on voit effectivement dans l'Allier, en train d'évoquer les animaux, c'est le parc de Saint-Auguste, du château de Saint-Augustin.
Voilà, oui, je suis arrivé dans un... J'étais très amoureux, elle avait 43 ans, j'en avais une vingtaine, Et on crée ensemble une réserve zoologique. C'est l'époque de Thoiry, l'époque des animaux. Les fois de, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de François de Lagrange, une émission sur France 2.
Bien sûr.
Ah, c'est vraiment, ça le ramène loin. Hein, qui montrait les, est-ce qu'on, qui faisait des choses qu'on ne pourrait pas voir aujourd'hui, quoi. Des petits lions sur un plateau de télévision en direct. Voilà. Et c'était la grande folie des parcs zoologiques. Et nous, on crée une réserve zoologique ensemble. Et elle n'avait pas d'argent, mais une grande propriété. Et quand je suis parti, au bout d'une dizaine d'années, on avait près de 200 000 visiteurs par an. Elle est devenue la plus grande activité touristique du centre de la France. Et j'étais passionné par les animaux. Je rêvais qu'un truc, c'est de partir voilà, étudier les animaux sur le terrain.
Il y avait un rapace célèbre qui s'appelait Boris, je crois.
Voilà, c'était un grand-duc.
Voilà. Et lui, il était très gentil pour un
rapace. Oui, un grand-duc. C'est vrai, aujourd'hui, les grandes chouettes ou les grands hiboux. C'est des hiboux parce qu'il a deux petites oreilles. Et ça, aujourd'hui, on les élève, ça fait en assimilation artificielle. On élève les grands-ducs, on peut les élever comme ça. C'est assez extraordinaire. C'est un grand rapace extraordinaire qui est en voie de disparition complète de façon sauvage en France.
Ouais, en Australie, il y a des rapaces qui font des incendies pour rattraper les rongeurs,
oui,
et les nourrir.
J'ai appris ça, c'est incroyable. Des rapaces, c'est des milans, ils attrapent les morceaux de brindilles enflammés qui vont emmener plus loin, et donc ça fait le feu, et quand il y a des feux, les insectes partent en l'air, ils peuvent se nourrir. C'est inouï cette histoire, comme l'intelligence d'un oiseau qui va foutre le feu lui-même pour manger.
Alors ce qui est étonnant aussi, Yann Arthus Bertrand, c'est que vous avez été viré d'une quinzaine d'écoles, et aujourd'hui il y a une quinzaine d'écoles qui portent votre nom.
Il y en a un peu moins, une 12 et peut-être une 13e, mais oui, mais alors c'est pas moi. J'étais choisi comme par les convictions que je porte, c'est pas moi qui ont été choisis, c'est vraiment les points sur l'écologie. Quand tu vas dans ces écoles et que tu vois sur tous les panneaux partout, sauver la planète, arrêter les déchets, c'est toujours très touchant. Et c'est très compliqué pour moi aujourd'hui de parler des enfants, parce que forcément, si on regarde le monde avec des yeux ouverts, c'est un petit peu inquiétant. Et je suis devenu incapable de parler à des enfants aujourd'hui d'une espèce de catastrophe annoncée. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ça, j'avais été invité au Festival des Arcs. Je parlais des jeunes qui avaient 13-14 ans. Et je me suis étranglé, j'avais larmes aux yeux, je n'arrivais plus à parler. Et je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup marqué. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence à Hyères, la ville de Hyères dans le sud, dans le Var. Et je parlais de ce film Planète Océan. Et il y a un petit garçon qui m'a dit, « Monsieur Arthus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il me dit, « La fin du monde, ben, je vois vos films, j'écoute les profs, je regarde la télévision, je vois les journaux, ça me passionne. On parle de la sixième extinction. En fin de compte, vous parlez d'un monde qui est en train de se finir, qui va être mon monde à moi. Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient en la fin du monde. Ben, ça ne m'a pas fait rire du tout, parce que 70% des bras se sont levés. Ça veut dire que les enfants n'ont pas peur, puisqu'on n'a pas peur, nous. Mais maintenant, parce que personne n'a peur vraiment, en fin de compte, mais ils ont bien compris que le monde de demain, il est difficile. Et c'est quelque chose, c'est le titre de mon film, Legacy. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à ses enfants, quoi.
Alors, avant le monde de demain, parlons de celui d'hier. Vous avez fait du cinéma, effectivement, et notamment avec celle qu'on n'a pas oubliée.
Bah, vous savez, les baisers de cinéma, il y a beaucoup de gens autour, il y a la caméra.
Vous avez été la partenaire de Michel Bordant en 10 mois que
qui tuait, oui.
D'Étienne Perrier.
Oui. Ce qui est drôle, c'est que souvent, je vois les jeunes, aujourd'hui, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, j'étais un gosse un peu perdu dans la rue, vivant au jour le jour. J'ai cette qualité, et je dis souvent aux gens, ne passez pas à côté de votre chance. La chance, elle passe toujours à côté de vous. Et moi, la chance, un jour, je rêvais de faire du cinéma, je filmais un petit peu, je vais au studio de Boulogne, je commence à on me fait nettoyer en échange d'un sandwich, je m'en souviens très bien, un gars qui me dit, tu veux nettoyer, tiens, nettoie ma plage, et comme je n'habitais pas chez moi, je dormais dans les cinémas, je rentrais par la porte de sortie, et je dormais dans les cinémas. C'est comme ça que j'ai vu une quinzaine de fois Citizen Kane, Le Fanfaron, quoi, des films un peu mythiques. Et petit à petit, j'ai balayé, après j'ai amené les cafés, après j'étais assistant, puis un jour on m'a dit, est-ce que tu veux pas faire des tests comme acteur, voilà, et donc je me suis retrouvé à Saint-Tropez, tournant un film avec Michel Morgan. J'avais vraiment le melon, là. J'avais la grosse tête. J'avais loué une voiture américaine avec un chauffeur, décapotable, c'est un truc comme dans les films, quoi. Et j'ai gagné autant que mon père gagnait en un an que vous dépensez en un mois, voilà. Avec mes copains. Et mon père, ça l'a rendu fou.
Et remarquez, vous avez appris les bases du cinéma et de la photographie sur les plateaux.
Pas vraiment. J'ai surtout appris à faire la fête à cette époque-là.
C'était pas mal. Il y a eu aussi un OSS 117, vous avez tourné.
Oui, j'ai fait un OSS 117, oui. Je ne suis pas un très bon acteur, ça ne m'intéressait qu'à moitié. Je n'avais pas cette... En fin de compte, je n'avais jamais travaillé. J'étais à l'aise devant la caméra, donc c'était facile. Mais je n'ai jamais travaillé, quoi. Je n'avais pas ce côté, vraiment envie de continuer de faire ce métier. Le milieu ne me plaisait que moyennement.
Oui, et puis vous ne vouliez pas être un artiste, mais un témoin.
C'est venu par la suite, tout ça. Oui. Non, après, c'est vraiment l'amour que j'ai eu pour cette femme. Et cette femme qui avait 43 ans, moi j'en avais 20. J'étais un gosse qui... un peu perdu, donc personne ne pouvait vraiment lui faire confiance, parce que j'avais aucune base, j'avais jamais rien fait de ma vie, et elle m'a fait confiance. Et c'est formidable de trouver quelqu'un qui, dans votre vie, vous dit, ben voilà, écoute, on va faire ça ensemble. Bien sûr, elle m'aimait, mais elle m'a laissé faire ce que j'avais envie, donc et moi je suis un très entrepreneur dans l'âme, et donc j'ai créé cette réserve de logique, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous fait confiance. Voilà. Oui. Et ça, c'est aussi pas passer à côté de sa chance. Vous faites confiance, ben, il faut y aller, quoi.
Oui. Et les animaux, c'est venu comment, la passion, Yann Herpilberger?
C'est venu à cette époque-là, parce que elle était une folle d'animaux. J'ai élevé des petits sangliers, des renards, des cerfs. Après, j'ai élevé des lions, parce qu'on avait un parc de lions. J'allais à Thoiry chercher les bébés lions, parce qu'ils avaient trop de lions, et qui les tuaient. Donc, j'allais les chercher. J'ai même passé mon brevet d'avion privé, petit avion, pour aller les chercher à Thoiry, pour aller vite. Et on nourrissait des lions, des petits bébés qui avaient 24 heures, avec du colostrum, qui est ce fameux lait que les bébés ont les premiers jours, avec du lait, du colostrum de chèvre. Et j'ai élevé bien une quinzaine de petits lions, et d'où ma passion pour les lions par la suite.
Et on va en parler justement avec une autre date, le 12 décembre 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Yann Yertus-Bertrand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yann Arthus-Bertrand. On parlera tout à l'heure de Cap 2030 et puis de ce film qui a beaucoup, beaucoup touché le grand public, Legacy. Et on revient à une date importante, c'est le 12 décembre 1981. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un documentaire que vous signez qui est diffusé dans une émission de Alain Bougrain-Dubourg, des animaux et des hommes. Et vous évoquez les gnous.
Oui, c'est-à-dire qu'Alain Bougrain-Dubourg, qui est un vieux copain, hein, qu'on connaît depuis que j'ai 20 ans, oui. On était ensemble tous les deux. Et je me souviens, il avait un camion, il allait dans les écoles montrer les animaux. Et un jour, il m'avait fasciné, Alain. Maintenant, il est le président de la LPO, c'est vraiment quelqu'un, un écolo très, très convaincu et qui a vraiment... c'est vrai, quoi. C'est ce qu'il dit est vrai. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment la nature accrochée au cœur. Et je me souviens qu'un jour, il avait été piqué par une vipère... dans une école, devant des enfants. Et devant les enfants, il se fait l'antidote, en disant, ben voilà, c'est pas grave, c'est piqué à vipère. Il se fait la piqûre et il continue à parler. Quoi, voilà.
C'est extraordinaire. Et là, c'est une émission de télévision. Il a commencé à la télévision avec Dorothée, en parlant
voilà,
des animaux.
Oui.
Et puis là, il évoque ce reportage que vous avez tourné en Tanzanie et au Kenya, parce que le Kenya est devenu votre pays d'adoption.
Oui, parce que en France, il y a un truc extraordinaire, c'est que moi, j'avais une trentaine d'années. J'avais quitté l'endroit où j'étais. C'est une histoire. Alors, je suis parti d'ailleurs pas forcément très bien. Je suis parti un peu sur coup de tête et je me dis que je n'ai pas forcément été très, très bien avec la personne que j'ai pas abandonnée un petit peu. J'en garde un petit peu quelque chose de pas bien. T'es dans la vie, c'est bien de savoir quand tu as fait bien ou pas bien. Et je pars au Kenya et là, je suis guide pour touristes. Je porte les valises. Et je vis comme ça, je fais des photos, j'explique un peu les animaux. Et là, quand je parle de pas passer à côté de ta chance, c'est vraiment l'exemple. Il y a un gars, je rencontre un Français qui a essayé de monter une opération de montgolfière au Kenya pour survoler les réserves. Et je me dis, mais ça, c'est un boulot génial pour moi. Je suis pilote avion, je vais aller le voir. Donc, je vais le voir. Je dis, vous ne cherchez pas à... En plus, l'opération montgolfière était au milieu de la réserve, quoi, vraiment au milieu du cœur où je voulais habiter. C'est le rêve de ma vie. Et il me dit oui, on cherche des pilotes, parce que les pilotes restent un mois, deux mois, l'Afrique, ça les emmerde. Moi, c'est un rêve. Je leur dis, mais moi, si je viens là-bas, je vous signe un contrat de 3 ans tout de suite. Donc, ils me payent ma formation de pilote professionnel de montgolfière. Et je m'installe avec Anne, ma femme, qui est encore toujours ma femme. Et ces deux petits garçons, on arrive au Kenya. Et ce qui est formidable en France, c'est même si vous avez zéro diplôme comme moi, je crois qu'on peut le faire encore, si vous trouvez un directeur de thèse, vous pouvez passer un doctorat, une thèse, sur le comportement des lions. Je voulais faire un peu ce qu'avait fait Jane Goodall sur les chimpanzés, c'est une espèce de primatologue extraordinaire qui avait donné des noms aux animaux et non pas des numéros. Je voulais faire la même chose pour les lions. Donc je trouve ce boulot formidable au milieu de la réserve, ce qui me permet de construire ma maison moi-même, en bois, c'est extraordinaire. Pour construire sa maison, c'est un truc assez fascinant. C'est pas quelque chose de très fort de construire avec ses amis africains une maison, Et cette maison, elle était incroyable, parce que j'avais une maison au bord de la rivière. J'avais les éléphants, les lions, les girafes qui passaient, mais devant ma maison. Quand je dis devant, c'était 20 ou 30 mètres. Et je me dis, quelque part, ce moment, 3 ans où j'ai travaillé sur les lions, c'était un moment le plus heureux de ma vie. Et aussi, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce qu'on se souvient toujours des moments malheureux de notre vie. Des moments épouvantables, des moments où on perd un proche, où on a vraiment une histoire de cœur. Par contre, les moments heureux, on le vit, mais on ne s'en plaint pas. On vit pleinement. Et moi, je n'ai pas assez profité de se dire, là, tu es en train de vivre un truc incroyable. Profite-en, j'étais obsédé par mon travail, je voulais réussir, j'étais ambitieux, je voulais faire mes photos. Et j'ai vraiment été très heureux, j'étais amoureux, j'étais... Et aussi, j'avais le kit complet de l'aventurier, quoi, la bagnole, ma femme qui travaillait avec moi, parce qu'on faisait la thèse à deux, ma femme écrivait et moi je faisais les photos, et c'est les lions qui m'ont appris la photographie, puisque c'est eux qui m'ont appris la patience, la beauté évidente, et tout ce que je suis aujourd'hui vient de ces moments là-bas, quoi. Tous ces moments viennent de se passer 3 ans où j'ai vécu au Kenya, et ce qui est intéressant, et que je suis en train de me battre pour ça aujourd'hui, c'est qu'au Kenya, les animaux sauvages n'ont pas peur de vous. Et moi, je rêve, vous ne pouvez même pas imaginer, j'habite près de la forêt de Rambouillet, que les cerfs et les biches n'aient pas peur de moi, que je sors de mon jardin, que les animaux ne soient pas... On vit dans un pays de chasse, les animaux sont chassés beaucoup, la chasse à cour, la chasse à tir, les animaux sont toujours inquiets. Et je rêve d'une espèce d'harmonie, alors c'est très utopique tout ça, d'une endroit où les animaux sauvages n'aient pas peur de vous. Et je viens d'acheter une trentaine d'hectares. J'ai cassé mon compte en banque pour faire ça, je ne regrette pas une seconde. C'est un endroit, une vallée magnifique. Nous avons créé une association avec mes amis. Dans cette vallée, nous allons faire du rewild. Nous allons relaisser sauvage cet endroit. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus, qui sont en train de rechercher tous les insectes. Comment un endroit qui a été tout le temps cultivé redevient sauvage. Et j'adorerais, parce que j'ai connu cet endroit quand j'étais gosse, quand j'étais enfant. Il y avait plein de cerfs et des biches, il y en a beaucoup moins maintenant. J'espère qu'ils vont revenir et qu'on pourra les approcher sans qu'ils soient terrorisés.
Il n'y a pas longtemps, dans la forêt de Chaville, j'ai vu des biches et des cerfs passer.
Est-ce que vous avez vu le plaisir de ça?
Ils nous regardaient.
Vous avez vu le cadeau que c'est? Est-ce que je dis souvent, un animal vivant, ça donne tellement de plaisir à beaucoup de gens. Un animal qui est tué par un chasseur, il va être content de l'avoir tué, mais il va faire plaisir à une personne. Un animal vivant, dans la forêt, il peut faire plaisir à des milliers de gens.
Alors, il y a justement d'autres animaux auxquels vous êtes frotté, ce sont les gorilles. Grâce à une personne étonnante, vous avez été l'un des derniers à la voir vivante, c'est Diane Fossey.
Oui, Diane Fossey. Vous voulez que je vous raconte l'histoire?
Ah oui.
Elle est un peu longue quand même, mais je vais vous la raconter parce que l'histoire est magnifique. Et ça commence par un drame. Je rentre de Noël avec la cérémonie de Noël avec ma femme. Et ma femme, en déchargeant sa voiture, une voiture lui rentre dedans et lui écrase les jambes. C'est un accident épouvantable. Et je retrouve ma femme enceinte, par terre, dans une mare de sang, au pied de ma voiture. Il se trouve que grâce à un énorme coup de feu d'attelage, elle a les jambes cassées, mais elle a remarché, mais elle était cassée de partout. Et donc, je pars à l'hôpital, je crois que ma femme va mourir. En fin de compte, tout se passe bien, le bébé naît, je m'occupe du bébé. Comme ma femme ne pouvait pas s'en servir, c'est moi qui m'occupe du bébé, moi-même, comme une mère. J'ai adoré faire ça, quoi. Je m'occupais la nuit, hein, de 7h du soir à 9h du matin. Et ma femme était là, sur ses béquilles. Et un jour, quand quelqu'un m'appelle, me dit « Est-ce que tu veux aller voir Jane Goodall ?» Avec Diane Fossey, voir les gorilles. Diane Fossey, c'est le rêve absolu pour tous les photographes, quoi. Voilà, c'était le journal « Ça m'intéresse » qui m'appelle. Je dis « Ben non, je peux pas, je m'occupe de Tom. » Et ma femme me dit « Écoute, vas-y, ça fait 4 mois que t'es bloqué avec ça, je vais me démerder, t'inquiète pas, il y a mes frères qui viendront, tes sœurs, on va se débrouiller. » Donc je dis pas non, je dis « Ok, j'y vais. » Et je pars quelques jours après, et en débuté sur une péniche, ma femme glisse sur le pont, et je vais la ramasser, et je me coince le dos. Mais je me coince le dos vraiment bien, quoi, le vrai lombago. Et je pars au Rwanda avec le dos courbé en deux. Les hôtesses me donnent du Doliprane, je me fais des piqûres de cortisone à Kigali quand j'arrive. Et j'arrive voir Diane Fossey qui m'engueule. J'étais arrivé une journée en retard, elle m'avait fait un gâteau au chocolat, elle m'engueule. Et je découvre cette femme incroyable qui vit c'est un peu le gorille dans la brume, quoi. C'est, voilà, elle vit au milieu de ces gorilles. Elle avait réussi, comme Jane Goodall, ils avaient pas apprivoisé, mais ces gorilles sauvages avaient compris qu'ils n'avaient pas de peur à avoir de ces femmes, et donc elles approchaient à bout portant. Je pars, oui, vas-y.
Non, allez-y.
Et donc je vais tous les jours les voir, et je me dis, mais qu'est-ce que j'avais mal au dos, j'avais un mal de chien au dos. Je me souviens, alors il m'avait fait des massages et tout. Et puis, elle m'avait dit, Jane Goodall m'a dit, quand tu vois les gorilles, quand ils arrivent autour de toi, ne les regarde pas dans les yeux, baisse la tête. En fait, je baisse la tête. Premier jour, j'arrive et d'un seul coup, je me mets dans une petite, il pleut beaucoup, c'est pas un climat agréable. Les gorilles viennent s'installer autour de moi, mais quand je dis autour de moi, à un mètre de moi, ils s'installent et il y a un énorme mâle qui arrive, il me regarde comme ça, il fait une parade d'intimidation comme King Kong, il se tape un peu sur la poitrine et il s'endort en se posant la tête sur mon pied. Et je me souviens, en ronflant. Et je me suis dit, à ce moment-là, quel moment incroyable, toi, photographe animalier, des gorilles, une famille de gorilles sont autour de toi. J'étais tout seul. Et voilà, je passe comme ça 8 jours avec les gorilles, et je ramassais toutes les crottes des gorilles, parce que Diane Fossé m'a demandé de ramasser les crottes, elle les mettait dans des bocaux, comme ça elle pouvait étudier, elle savait de quelle famille je parlais. Et elle reconnaissait les gorilles à travers les crottes, tu vois. Et donc, parce qu'elle ne pouvait pas aller voir les gorilles, parce qu'elle avait un cancer du poumon, elle ne pouvait pas aller dehors. Et des derniers jours avant que je parte, il y a le mâle dominant avec un dos gris, c'est comme des animaux très costauds, hein, qui partent à compter fleurette et une femelle gorille sur le côté. Et il y a un petit jeune mâle, mais un jeune mâle quand même, tu vois, un truc qui pèse 150 kilos quand même, qui se met devant moi, qui me fait une parade d'intimidation, mais démente. Il se met à casser des branches, le poil se hérisse, il tape sur la poitrine. Et il me donne un énorme coup dans le dos, il m'envoie dans la forêt, et il me remet ma vertèbre en place. Je sors de là n'ayant plus mal au dos. Et, voilà. Et c'est une histoire assez extraordinaire. Et elle a été tuée 2 jours après.
C'est fou. Alors, Gorille dans la brume, d'ailleurs, elle voulait rencontrer les producteurs qui avaient préparé un film sur sa vie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Gorille dans la brume a été tourné à 3600 mètres d'altitude.
Bien sûr,
Gombe. Et il a fallu des autorisations spéciales. Il y avait 6 personnes au maximum pour ne pas perturber les animaux.
Exactement.
Pendant le tournage.
Ouais, c'est un film magnifique.
Et ce film est rentré dans la légende comme elle est rentrée dans la légende. Et finalement, pour aimer les animaux, enfin pour vivre avec les animaux, il faut les aimer, il faut les connaître. C'est
Croyez,
pas évident.
Oui. Tu crois ?
Ah oui ? Non ?
Bien évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai évolué, hein, j'ai 75 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, avoir cette conscience amoureuse de la vie autour de soi. Être écolo, c'est pas aimer uniquement que les arbres, les animaux, les petits oiseaux, c'est aussi d'aimer les gens. Et voilà, et cette conscience amoureuse de la vie, c'est important. Et moi, dans ma fondation Good Planet, qui est ouvert gratuitement, je fais un peu de pub tous les week-ends
dans
le Bois de Boulogne,
oui.
On parle aussi bien du changement climatique, de la cuisine idéale, d'un escape game sur le carbone, qu'on va parler des réfugiés. Parce que je pense que c'est important d'avoir cette vision holistique, complète, de voir le monde avec moins de cynisme, scepticisme et un peu plus de bienveillance. Il y a beaucoup d'utopie là-dedans, bien sûr.
Non, mais il y a la réalité. Et nous, on va continuer à parler de vous dans quelques instants à travers une autre date, le 2 mai 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Yann Arthus-Bertrand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yann Arthus-Bertrand. On parlera tout à l'heure de Cap 2030 et puis de ce film Legacy qui a vraiment trouvé un large public. Et on revient à une date importante qui est le 2 mai 2000. Ce jour-là s'ouvre l'exposition au Jardin du Luxembourg. Une exposition dont personne ne voulait, aucun musée n'en voulait, Yann Arthus-Bertrand.
Oui, c'était une histoire incroyable. Ça commence dans les années 92. D'abord, je suis photographe, je rentre à Paris et je vends très bien mes photos de Lyon, mes Maasai, et donc je décide de devenir photographe et non pas scientifique. Et je ne soutiens pas la thèse, je me dis c'est pas la peine. Voilà, ma femme, elle, va faire une thèse de lettres. Et moi, je pars comme photographe et je fais beaucoup de choses, du Paris-Dakar, de Roland-Garros, toujours beaucoup, beaucoup d'animaux. Avec Bougrain Dubourg, on fait beaucoup de gens, d'histoires, de gens avec leurs animaux. Et en 92, il y a la première conférence de Rio. Et c'est la première fois que c'est un peu une des premières COP, quoi. Et on commence à parler de beaucoup de choses. Je me souviens très bien d'avoir vu la double page dans Le Monde qui parlait de ça. Et je me dis, je vais faire un grand travail sur le monde, sur la beauté du monde. Et assez inspiré par un photographe qui s'appelle Salgado, qui est un de mes amis, qui est un photographe extraordinaire, qui avait fait un travail sur la main de l'homme, qui a fait un gros travail. Je dis, je vais partir 8 ans photographier la Terre. Et pendant 8 ans, je vais survoler la Terre. Bon, c'est compliqué, j'hypothèque ma maison. Mais j'étais passionné par ce que je faisais, donc c'est pas vraiment... Merci d'ailleurs à ma femme qui a accepté d'hypothéquer notre maison de famille pour mon travail. Mais voilà, il y a une espèce d'obsession d'aller au bout du travail. Et dans les années 2000, le livre sort. Le livre est tout de suite un succès. C'est drôle parce que Hervé de Lamartinière un jour m'appelle, qui est mon éditeur, me dit, Yann, bon, tu vois, on en a tiré 35 000. Les représentants me disent, mais on va jamais les vendre. Donc, je dis, est-ce que tu acceptes qu'on baisse le prix ? Je dis, écoute, on va baisser le prix, mais si le livre marche, on le laisse à un prix bas. Donc, ça a été une des raisons du succès du livre.
La Terre vue du ciel.
La Terre vue du ciel, qu'on a vendu quand même à quelques millions d'exemplaires. Et donc, le livre sort, est un succès. On a l'exposition, une petite exposition dans un petit musée, le musée de Luxembourg, qui est assez connu maintenant. voilà, au Sénat. Et quand le musée ferme, on m'avait donné les clés pour faire l'exposition. Je ne savais pas où mettre mes photos, j'avais un monde fou. Et je te propose, parce que c'est vrai que tous les musées avaient refusé mes photos. J'avais essayé, il y avait, il y avait la grande année de l'an 2000, il y avait même la mission de l'an 2000 avec Ayagon. Et je me souviens, un seul personne m'avait proposé de faire une exposition. C'était sur le Grand Dôme à Londres, il y avait une énorme exposition sur l'an 2000 à Londres. Et il m'avait proposé un endroit formidable, c'était le couloir qui allait aux chiottes. Et alors, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, tout le monde va y aller, c'est génial. Ben, je dis non, moi, ça, donc je refuse. Et donc, on invente avec Françoise Leroy, avec qui je travaillais à cette époque, on dit, on va mettre les photos dehors sur les grilles. Tout le monde m'a dit, mais elles vont être volées. Et donc, on invente vraiment les expositions de photos dans la rue. Alors, maintenant, c'est des photos numériques, ça craint plus rien, mais c'est pas que c'est un vrai papier photo qu'on entoure d'une plastification. Et c'était un succès incroyable. Je me souviens très bien, le dimanche matin, avec ma femme, mes assistants, on est en train de monter les photos sur les grilles. On met les légendes, on met 5 photos, et la rue était bloquée, les gens n'avançaient plus. On venait voir, on venait regarder. Et c'est une exposition, on a eu 2 millions de personnes qui sont venues voir l'exposition. Et surtout, on en fait encore en ce moment. Encore en ce moment, j'en ai toujours quelque part dans le monde. Les expositions qu'on fait aujourd'hui sont bien sûr remises à jour. Tu vois, on remet les chiffres, des nouvelles photos. Et c'est une exposition. Et je crois que le gros succès de la Terre du Ciel vient de cette publicité extraordinaire de mettre des photos dans la rue. Quoi.
Oui, et il y a eu quand même, je crois, une centaine de pays qui ont repris cette exposition aujourd'hui.
On a fait 200 expositions, je crois un peu plus que ça. On a fait 200 expositions dans le monde aujourd'hui.
Comment expliquer ce succès? Parce que la Terre vue du Ciel se vend au minimum à 3 millions d'exemplaires. Ce n'était jamais arrivé pour un livre de photos, Yann Arthus Bertrand.
Bon, on est tombé au bon moment. Le livre n'était pas cher. Mais surtout, c'était le début peut-être de... Vous savez, c'est la grande époque de Géo, de Figaro Magazine, Paris Match. Tout le monde faisait la nature, les animaux. Et puis surtout, moi, ces 8 ans à travailler sur la Terre, j'avais complètement changé. J'étais devenu un activiste. J'avais envie de parler, non pas du réchauffement climatique, on n'en parlait absolument pas à cette époque-là. On a commencé à en parler en 2004-2005 avec Al Gore, avec le film d'Al Gore. Mais la pauvreté, le rapport pauvreté-écologie, la déforestation, le problème du manque d'eau, les problèmes des ONG. Quoi, ça m'a passionné de faire. Je lisais énormément. Aujourd'hui, il sort un livre sur l'écologie, 3 ou 4 par semaine. À cette époque-là, il sortait un ou 2 livres par an. Donc il faut savoir que l'écologie était quelque chose de très nouveau. Et donc je me passionne pour tout ça. Je rencontre des scientifiques. Et en l'an 2000, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Quoi. J'avais qu'une envie, c'est que mes photos servent à quelque chose. Donc pour ça, une exposition gratuite. Et bien sûr, et c'est très important, on avait des légendes très très longues et fortes qui expliquaient un problème du monde. C'était pas simplement une photo. Chaque fois, il y avait une explication. Et je crois que la force de l'exposition et du livre, c'est ça aussi d'ailleurs.
Mais vous n'étiez pas complètement dans l'air du temps, puisque moi, je me souviens d'une série de télévision qui s'appelait Vue du ciel. Il y a eu 15 films. Et après, France 3 a décidé d'arrêter, alors que ça aurait pu continuer longtemps.
Je veux pas critiquer.
Non, mais c'est un
France
fait.
Télévision. Non, mais d'abord, il s'est passé une chose, c'est qu'un jour, je suis convoqué par Monsieur Duhamel, qui était le patron de France Télévisions. Il me dit, Yann, il faut que tu arrêtes de parler de la pauvreté. Tu dois parler d'écologie. La pauvreté, c'est envoyé spécial. Je leur dis, mais c'est ridicule. Aujourd'hui, l'écologie, forcément, c'est lié à la pauvreté. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de déforester, de braconner, si vous ne luttez pas contre la pauvreté. Il y avait quelque chose. Donc voilà. C'est l'époque aussi, l'écologie, on n'était pas beaucoup, on était considérés. Voilà. Donc l'émission marchait bien, elle s'épuisait un petit peu. Voilà, donc je suis parti sur une autre ligne, mais ça m'a permis de faire mon film Home, ça m'a permis de faire d'autres choses. Donc, et là, en ce moment, je suis en train d'essayer de refaire une émission sur France Télé.
Voilà, alors il faut savoir aussi qu'on a failli vous perdre sur le Paris-Dakar. Pourquoi d'avoir dit Paris-Dakar? Vous aimez
alors,
prendre les
photos? Alors, quand j'étais au Kenya, vous savez qu'il y avait un grand safari rallye, très très connu au Kenya, que gagnait Peugeot tous les ans. Et comme je faisais travailler sur les lions, j'ai pas beaucoup d'argent, mon cousin Daniel me dit, écoute, tiens, je m'occupe d'une écurie de voitures, est-ce que tu voudrais Porsche, est-ce que tu voudrais faire des photos? Donc je vais faire des photos de Porsche, des voitures Porsche au Kenya, et j'ai adoré faire ça, parce que je faisais des paysages, moi je faisais des voitures avec des animaux devant, quoi. Je faisais des paysages, et je rencontre Jack Hicks, qui était un coureur automobile très connu, qui me dit, tu devrais faire un ciel Paris-Dakar, ça te va te plaire, toi qui aimes l'Afrique, moi j'adore l'Afrique, je suis un malade de ces paysages, de ces gens. Et j'ai fait 10 Paris-Dakar avec Thierry Sabine. Je faisais le livre de Paris-Dakar. Mais c'était une autre époque. On n'avait pas de GPS, on se perdait, il y avait du danger. Et ça a été très décrié après, c'est une question écolo. Mais sincèrement, bien sûr, ça abîmait les routes, bien sûr. Mais en même temps, ça amenait énormément d'argent. Et surtout, ça a amené une connaissance de l'Afrique à des gens qui ne connaissaient rien. J'ai pas mal de copains qui, encore aujourd'hui, s'occupent d'ONG qu'ils ont montées avec le Paris-Dakar. Il n'y a pas très longtemps, j'en parlais il y a quelques jours, de Agadez, quelqu'un qui s'occupe des réfugiés, et qui était un ancien du Paris-Dakar. Donc voilà, ça a ouvert l'Afrique sur beaucoup de gens, ça a amené de l'argent. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quand je faisais le film Human, je me suis arrêté en Mauritanie, dans un petit village, Tichit, et il me disait, oh, qu'est-ce que le Dakar passe plus ? Nous, on faisait une journée quand le Paris-Dakar passait, notre chiffre d'affaires de l'année, quoi. Donc, il y a du plus, il y avait du moins, il y a eu malheureusement des enfants quand il y a eu des accidents avec des coureurs automobiles. Malheureusement, je le dis bien, mais en même temps, je crois que c'était un bien pour l'Afrique et pour les gens qui faisaient la course.
Oui, mais il y a une chose qu'on sait peu, Yann Arthus Bertrand, c'est que vous avez failli monter à bord de l'hélicoptère qui s'est crashé avec Daniel Balavoine.
Oui, j'étais. Alors tous les jours, en fin de compte, un jour Thierry Sabine m'a dit, Yann, écoute, tu fais ce livre sur le Paris-Dakar, j'aimerais qu'on soit partenaire, parce qu'on travaillait avec la Martinière, et dire, je dis d'accord, mais la seule condition, c'est que tu m'emmènes avec toi dans ton hélicoptère tous les jours, parce que je faisais faire des choses. Déjà obsédé par la photographie aérienne et Thierry me dit oui, et un jour il me dit écoute, là il l'appelait le chanteur qui voudrait prendre ta place, qu'on doit visiter Balavoine avait des puits, il est très impliqué lui aussi avec France Gall, il faisait des projets là-bas, et il a pris ma place et ils se sont tués, voilà.
C'est effectivement assez troublant. Alors, il faut savoir aussi que Thierry Sabine, avant d'être le responsable, l'inventeur du Paris-Dakar, a été attaché de presse. Il a lancé notamment cette chanson.
J'ai encore rêvé d'elle.
Je n'avais pas ça.
Eh oui, cette chanson mythique du groupe Il était une fois.
Ah oui.
C'est Thierry Sabine qui l'a lancée comme attaché de presse.
Je ne savais pas.
Quand personne n'y croyait.
Ah oui. Et qui est une chanson mythique.
Chanson mythique, comme Thierry Sabine est encore mythique. Alors, derrière le succès du livre et tout ce que vous avez fait, vous a permis de fonder de créer cette fondation Good Planet. Comment c'est venu cette idée, Yann Arthus Bertrand ?
Quand vous devenez un activiste, que vous parlez d'environnement, d'écologie, vous faites des émissions de télé, vous rencontrez des gens qui s'engagent. Et vous savez, moi je suis persuadé que agir rend heureux. On ne peut pas être dans ce monde, passer dans ce monde sans s'impliquer. Alors il y a des gens qui peuvent plus que d'autres, qui ont plus de moyens que les uns que les autres, mais chacun a un rôle à jouer. Et moi, quand j'ai fait cette émission de télé où on allait à la rencontre des gens des ONG dans le monde entier, je me suis dit, mais moi j'aimerais bien faire aussi ma fondation, avoir nos projets, ce qui nous permet, une fondation aussi, d'avoir de l'argent défiscalisé quand vous faites, vous occupez d'un projet à l'étranger, pour vous allez voir les entreprises. Vous savez, quand vous avez une fondation, vous êtes un peu mendiant professionnel. Hein.
Oui.
Donc vous avez passé votre temps à chercher de l'argent. Et donc, avoir une fondation, c'est plus simple, voilà. Et on a créé cette fondation au début. Tout à fait au début, on l'a créé pour faire la compensation carbone de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'en échange de nos émissions de carbone, encore aujourd'hui, pour beaucoup d'autres gens, on fait des réservoirs de biogaz en Inde qui permet à des familles d'avoir de l'énergie sans avoir besoin de déforester, sans besoin d'envoyer les enfants ou les femmes couper du bois. Donc c'est assez vertueux. On en a fait plusieurs milliers aujourd'hui. Voilà, et la fondation s'est appuyée là-dessus au départ. Après, on a fait beaucoup d'autres choses. Les posters dans les écoles, par exemple, on vient d'envoyer dans toutes les écoles de France. Et s'il y a des gens qui m'entendent et qui n'ont pas reçu les posters, allez les chercher chez Canopé. 17 posters sur les ODD. On a un endroit dans Paris extraordinaire, dans le bois de Boulogne, qui est gratuit, ouvert à tous, où on parle, on a une ruche géante, il y a une escape game sur le carbone, on passe des films, il y a Mathieu Ricard qui vient parler, Mohamed Younous, quoi. C'est un endroit de conférence, on a 3 hectares avec un petit château, et c'est un endroit, on a 350 bénévoles, c'est absolument incroyable. C'est un endroit, avant de le faire, je le disais, je rêve d'un endroit où règne la gentillesse et la bienveillance, c'est un peu ça.
Oui.
Il y a beaucoup d'utopie là-dedans, et c'est un endroit que j'aime beaucoup.
Oui,
avec une très bonne équipe, hein, parce que moi, je n'en fais pas grand-chose, c'est tous les gens qui travaillent.
Oui, mais ils travaillent bien, et vous supervisez tout ça. Et puis, il y a aussi le côté honneur, parce que quand on voit votre palmarès de médailles et autres, c'est assez impressionnant.
Oui.
Et notamment, il y a quelque chose d'important, c'est l'Académie des Beaux-Arts, et là, c'est votre métier de photographe qui est reconnu. Vous avez été intronisé le 15 octobre 2008 avec Lucien Clerc. Vous êtes le seul photographe à être aux Beaux-Arts.
Non, maintenant, on est plus. On est,
à l'époque.
À l'époque, on était les deux premiers. Oui,
si.
C'est un endroit très académique. Un jour, on m'appelle, est-ce que tu veux rentrer à l'académie ? Moi, je suis académique, qu'est-ce que c'est ? Il se trouve que mon père faisait quand même les épées d'académicien.
Oui.
Alors mon père me dit, voilà, c'est super important et tout. Moi, je prends ça un peu comme de la rigolade, j'envoie mes bouquins. Et donc, on a élu Lucien Clerc et moi, les premiers photographes à l'Académie des Beaux-Arts. Et j'adore y aller, parce que alors, il y a les architectes, il y a les peintres, il y a les musiciens, et on parle beaucoup entre nous. On est tous les mercredis, j'y vais pas tout le temps, on discute. C'est, et vous savez, on va être ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Donc on a des relations très particulières, très, très amicales. On s'engueule de temps en temps, mais c'est plutôt... et en fin de compte, j'ai pris ça un peu à la légère au début. Maintenant, je m'aperçois. Puis on fait des choses. On aide énormément d'artistes. Voilà, on fait beaucoup de choses intéressantes et passionnantes. Voilà. Et Salgado est rentré à l'Académie, et voilà, a remplacé Lucien Clergue. Il y en a même Bruno Barbet qui vient de disparaître. Voilà, donc non, on est vraiment, on est trois photographes et on va être quatre bientôt et on sera six bientôt, voilà.
Alors, Lucien Clerc, il ne faut pas l'oublier, il nous a quittés voici deux ans. C'est le premier autodidacte en France qui a été reçu docteur S-Lettres avec option photographie à l'Université de Marseille.
Pas mal, hein? pas mal.
Parce qu'alors que vous n'avez même pas de diplôme.
Non, j'ai aucun diplôme.
Non, mais vous compensez avec d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 14 janvier 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Yann Arthus-Bertrand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yann Arthus-Bertrand. 14 janvier 2021, sorti chez Michel Lafon d'un document de la fondation Good Planet et de Yann Arthus-Bertrand, Cap 2030, une décennie pour changer le monde. Et ce livre est parti de cette convention citoyenne climat avec 150 personnes qui ont été tirées au sort. Et non seulement vous les avez rencontrées, mais vous comptez en faire un film, voilà. Yann Arthus-Bertrand.
D'abord, bravo Emmanuel Macron et Cyril Dion d'avoir organisé ça, quoi, et Mathilde Himmer, parce qu'il fallait quand même le faire. C'est la première fois que ça se faisait. C'est bon que c'est très bien de critiquer Macron en ce moment, mais au moins il l'a fait. Voilà, même si ça n'a pas été comme ils espéraient, mais il l'a fait et bravo. Bon, faut le dire aussi, il faut reconnaître les choses. Hein. Et j'étais fasciné par ça, parce qu'on a pas mal assisté, on y a été pas mal. C'est 150 types, 150 personnes, femmes et hommes et jeunes, qui ont été choisis par hasard. C'est extraordinaire. Dont beaucoup ne connaissaient rien à l'écologie.
Ils ont même cru un canular.
Vous savez, Cohn-Bendit, on appelait Cohn-Bendit. Il ne savait pas, dites-vous. Bon, oui. Est-ce que vous savez qui je suis ? Non, c'est quelqu'un qui l'appelait pour faire partie de la convention. Et donc, bien sûr, il a refusé. Tu arrives dans cette convention, tu ne connais rien à l'environnement ou l'écologie ou très peu, et tu as 7 week-ends où on te forme. Au bout de ces 7 week-ends, tu deviens plus radical que je suis moi. Tu as pris conscience de ton rôle de citoyen et tu proposes des lois pour le gouvernement français. Ce qui m'a fasciné, c'est cette espèce d'engagement, citoyenneté, quoi. Des gens qui se disent, et c'est des gens qui ont pris le goût à la politique, le goût à défendre, défendre leurs convictions. Et j'ai vu, moi j'ai assisté le dernier jour, ils pleuraient tous, quoi. Ils étaient tous en pleurs de se quitter, d'émotion, du travail qu'ils avaient. Des gens qui, sur leur temps de congé, se mettent à travailler, à se renseigner. Alors, c'est invraisemblable quand tu parles à ces gens, comme ils connaissent les dossiers sur l'environnement et sur l'écologie. Avec la Fondation, on est en train de préparer de la formation pour les hommes politiques. Un peu à cause de ça. Je pense que les hommes politiques ne connaissent pas assez les problèmes d'écologie. Et je pense eux aussi, ils auraient besoin de formation. Donc on est en train de préparer ça à la Fondation. On est en train de préparer un film là-dessus. Ce qui fait que ces gens, quand ils rentrent chez eux, ils font chier les gens dans l'usine, ils font chier leur famille, c'est leurs enfants qui disent, mais ils expliquent ce qu'ils ont appris, quoi. Et donc je pense que l'éducation est tellement, tellement importante. Mais ça, c'est une éducation de fond. C'est l'éducation, elle n'est pas que dans leur tête, elle est dans leur cœur. Tu vois, aujourd'hui, ils se sentent un peu obligés, quoi. C'est leur mission, quelque part, de convaincre. Et ça, je trouve ça formidable et bravo, bravo, bravo.
Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces commissions ont donné un rapport de 460 pages, dont vous parler dans ce livre.
Très sérieux.
Très sérieux. Et qu'ils ont travaillé par groupe. C'était très, très précis, Yann Arthus-Bertrand.
Mais ce qui est formidable, c'est que, par exemple, quand ils ont proposé de 110 km/h sur l'autoroute. Moi, je me souviens, j'avais été sur BFM Télé pendant ce moment-là, et la dame disait, oui, de toute façon, c'est un truc de bobos parisiens. Mais je disais, madame, vous avez les 150, c'est pas des bobos parisiens, c'est des gens qui viennent de province. Et si des gens de province... c'est pas le mot que je voulais dire, qui habite pas Paris. Ils disent de rouler à 110 km/h, qui est vraiment, c'est compliqué de rouler à 110 sur l'autoroute. Ce qui veut dire qu'ils ont pris conscience, c'est capable de faire un effort, tu vois, et que ces gens-là. Et donc, c'est vraiment, ils ont pris des décisions. Alors, bien sûr, c'était normal que tout soit pas suivi, que quand on revient sur la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Mais n'empêche que c'est vraiment une expérience formidable. C'est un bouquin qui explique bien ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas.
Oui, ouais. Parce que tout n'est pas réalisable, en particulier à cause des lois.
Non, et puis aussi, il y a la réalité économique, vous savez. Ce que les gens n'ont pas bien compris, il n'y a pas d'un côté les gentils écolos, de l'autre côté les méchants capitalistes. Aujourd'hui, on vit tous de la croissance. Tous. Vous comme moi. La croissance, voilà. Qu'est-ce qui paye les hôpitaux? Qu'est-ce qui paye les écoles? Qu'est-ce qui paye les routes? les fonctionnaires, c'est la croissance. Donc, parler de décroissance, parler de vivre mieux avec moins, c'est la chose que déteste envie d'entendre un gouvernement. Et quelque part, les 150, ils parlent derrière d'une certaine décroissance, d'une post-croissance, disons. Donc, c'est ça qui est compliqué et difficile. Et la réalité nous rattrape. Voilà, exactement. C'est facile de dire on va arrêter les moteurs diesel. Mais quand vous avez une usine qui a été fabriquée pour faire des moteurs diesel pendant 10 ans, et que ça a été fait pour ça, c'est difficile de changer d'un seul coup du diesel en électrique, par exemple. Voilà, donc c'est la réalité souvent nous rattrape. Et c'est pas si facile que ça. Et les hommes, moi, vous savez ce que je dis souvent, c'est que les hommes politiques, c'est vraiment le reflet de ce que nous sommes, nous tous. Le jour, vous savez, quand il y a la marche pour le climat à Paris, on est 50 000 et on est très content. Quand il y a l'arrivée des Coupes du Monde, on est 4 millions dans la rue. Quand on sera des millions de la rue à manifester contre le dérèglement climatique, eh bien, les lois changeront. Aujourd'hui, les politiques, je le répète, sont un peu le miroir de ce que nous sommes. Si on n'a pas envie de changer, le monde ne changera pas. C'est nous qui décidons. Je crois beaucoup à la force de la rue, de la base. Quoi. C'est nous qui faisons changer les choses.
Moi, je me souviens d'un temps pas si lointain où on rigolait des écolos. Il y avait
Je le connais, ouais. je peux vous dire, on se foutait de ma gueule.
Ouais, ouais. Non, mais il y avait un certain Mouna Aguigui, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était un libertaire, une sorte de clochard, qui à vélo sillonnait Paris et qui développait les thèses que vous évoquez aujourd'hui.
Bien sûr, je connais ça.
C'est un personnage étonnant.
Ah, oui.
Il s'appelait André Dupont. Bon, il s'est fait appeler Mouna Aguigui. Alors, ce qu'on ne sait pas aussi, ce que vous révélez dans ce livre, Yann Arthus-Bertrand, c'est qu'il y a eu des speed dating pendant le. C'est vrai, c'est étonnant.
Bah, c'est la vie.
Oui, mais les speed dating, en fait, au départ, c'est des rencontres pour se connaître.
Oui, et là, c'est les speed dating pour parler d'écologie.
Voilà. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le speed dating, c'est une méthode créée par un rabbin aux États-Unis à la fin des années 90 pour préserver la culture juive en poussant au mariage intracommunautaire. C'est né comme ça.
Voilà. Il y avait des moments où vous avez un quart d'heure pour expliquer un projet, les gens devaient parler. Mais vous savez, mais vraiment, ça m'a étonné de voir l'engagement de ces 150. Il y avait des gens qui avaient 18 ans, il y avait des gens qui avaient 70 ans. C'est ça qui était formidable. Cette espèce de cohésion, tu vois, il y avait une espèce de. C'était vraiment la France, quoi, de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les couleurs. C'était assez extraordinaire.
Et dans ce livre, vous dites qu'on a 9 ans pour éviter le réchauffement climatique.
Et chaque année, on est en train de chauffer. Quand j'ai fait Home, il y a 10 ans, je disais, il y a encore 10 ans.
Ouais. Mais... Et là, il y a encore 10 ans. Et puis, ben, vous l'évoquez aussi dans ce film dont on écoute le générique. Legacy, passé sur M6, un film qui a fait beaucoup d'audience, dont on parle beaucoup, et un film qui a été refusé par toutes les chaînes à part M6, Yann Arthus-Bertrand.
Oh, peut-être quand je l'ai proposé, j'avais peut-être mal expliqué. Alors, je ne sais pas très bien ce que je voulais faire. Moi, je fais les films, enfin, on les avance tous, c'est aussi un peu de ma faute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dire la vérité, ça choque tout le monde. Dire que. Quand vous dites aux gens, par exemple, que le climat qu'on a eu toute notre vie, pendant 20 000 ans, quand toute notre civilisation est partie à jamais, ben c'est impressionnant de dire ça. De dire que si on continue comme ça, en 2070, il y aura 3 milliards de gens sur la Terre qui ne pourront plus vivre où ils vivent en ce moment, et ces réfugiés viendront chez nous, personne n'a envie de l'entendre. Et donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a perdu, écoutez bien ce chiffre, 70% du vivant en 40 ans. On aurait perdu, je le répète, 70% du vivant en 40 ans. Toute l'histoire des pesticides, quoi, tout ce monde dans lequel on vit, qu'on accepte au quotidien, de dire la vérité, d'avoir le dire avec les... Je pense qu'à mon âge, j'ai plus le droit de mentir. On n'a plus le droit d'arranger la vérité et de... Oui, mais tu comprends, tu donnes pas d'espoir. Si je donne de l'espoir, je donne de l'espoir de... On peut changer aujourd'hui. Il suffirait chaque année de réduire de 5% nos énergies fossiles pour ne pas arriver à plus de 2 degrés en 2050. Mais réduire de 5% les énergies fossiles, c'est l'économie, c'est toute notre économie qui va être réduite. Donc c'est un vrai problème.
Oui, legacy, ça veut dire héritage en anglais. Et c'est vrai que ce film, c'est un film optimiste que vous considérez comme l'histoire de l'homme sur la Terre, Yann Arthus-Bertrand.
Comme toujours, je pars dans tous mes films, Home, Planète, Océan, on part du début. C'est intéressant de comprendre d'où on vient et ce qu'on est, quoi. Comment s'est fait la vie sur Terre? Qu'est-ce que c'est que les énergies fossiles? Faut quand même imaginer que c'était l'homme, quoi. On commence par une séquence dans la grotte Chauvet, il y a 35 000 ans. Le mec dans la grotte Chauvet qui était là en train de peindre avec son bâton plein de graisse de je sais pas, d'un animal qui avait peur des lions, qui avait peur de tous les animaux autour de lui. Ce qu'on est devenu aujourd'hui, quoi. C'est ce type qui était... qui était l'homme primate était qu'un animal parmi d'autres. Et sa façon, son intelligence, sa façon de coopérer, on a réussi à coloniser la Terre. Et bien sûr, c'est ce qui est en train de causer notre perte. Mais d'abord, je suis épaté par cette intelligence, parce qu'on a réussi à faire, c'est inouï, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à développer. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les gens dans la grotte Chauvet ne savaient pas d'où ils venaient, ils ne connaissaient pas leur histoire. Ils ne savaient pas quel était leur avenir. Ben nous, on sait. On sait d'où on vient et on sait où on va. C'est la grosse différence.
Alors, ce film, à l'inverse des autres, vous n'avez pas tourné quelque part. D'ailleurs, je crois que vous ne prenez plus l'avion. Vous êtes plongé dans vos archives.
Non, on travaillait dans mes archives. J'avais énormément d'archives. Mais aussi, on a fait travailler des gens au Brésil, aux États-Unis, en Chine, en Pologne, avec des dronistes. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile de trouver des compagnies des gens qui font du drone. Et par exemple, on a fait des gaz de schiste aux États-Unis que je n'avais jamais filmé. On a téléphoné à des dronistes qui l'ont fait. Pour faire les images des Nations Unies à New York, on a pris des dronistes. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, c'était très compliqué d'avoir des images aériennes. Donc, on les a pris par téléphone. Et puis, on avait énormément d'archives. Et d'ailleurs, j'ai encore d'autres films que je pourrais faire avec mes archives parce que j'ai beaucoup trop de choses. Qu'on avait fait Human, je me souviens, on avait tourné 3 semaines en Éthiopie pour en mettre 5 minutes dans le film. C'était ridicule. Donc ça, je veux en faire un film.
Mais c'est un travail immense de se plonger dans les archives comme ça pour refaire un autre film.
C'est beaucoup moins compliqué que faire les photos, de faire les images que de prendre les archives.
Alors, il y a un phénomène de la fonte des glaces dont tout le monde parle depuis des décennies. Vous vous expliquez finalement que perdre 2 degrés, c'est comme la température, c'est une catastrophe.
Oh, je ne vais pas tout voir. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la glace ? Parce que la glace, ça se voit. La glace, on le voit. Le réchauffement climatique ici, bon, les étés sont un peu plus secs, ça se voit pas, mais quand on voit les milliards de tonnes de glace qu'on perd tous les jours, ça se voit, on les voit par les photos satellites, les gens vous le disent. Alors, est-ce que vous savez la différence entre la glace arctique et la glace de l'Antarctique ? Est-ce que vous le savez ?
Non.
Alors, je vais vous dire. L'Arctique, c'est de l'eau gelée, c'est du sel. Donc, si ça fond, ça ne va pas faire monter le niveau de l'océan. Donc, simplement, c'est la mer gelée. Alors que l'Antarctique, c'est un continent entouré de mer. Alors que l'Arctique, c'est de la glace entourée de terre. Et par contre, si l'Antarctique ou le Groenland fondait, l'eau va monter de 60 mètres. Mais elle va fondre. On ne l'arrêtera pas aujourd'hui. On sait que c'est parti. Alors, tout dépend de la vitesse à laquelle ce qui va se passer. Mais on va vers une civilisation où l'eau va monter de 60 mètres. C'est pas pour tout de suite. Mais dans les peut-être 50 ans, 100 ans, ça sera là. Voilà.
Alors, il y a une chose très importante que vous défendez dans ce film, et vous défendez en tout court, Yann Arthus-Bertrand, ce sont les arbres. Parce que l'arbre, c'est l'avenir de la planète.
L'arbre, d'abord, il faut imaginer que les arbres sont arrivés il y a 400 millions d'années. Bon, la Terre, elle a 4 milliards d'années. Hein. Mais il faut imaginer, et ça, les gens n'ont pas compris, c'est que souvent, ne le savent pas. D'abord, c'est que l'arbre, la matière de l'arbre, elle est fabriquée par le ciel. Par la photosynthèse, le carbone qui est dans l'air et le soleil. La matière de l'arbre ne vient pas du sol. Elle est fabriquée par l'air, par le carbone, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et quand vous mettez une bûche dans votre cheminée, eh bien les cendres, tout va repartir dans le ciel d'où ça vient. Par contre, la cendre, ce sont les oligo-éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, sur la Terre, c'était qu'un caillou. C'est une espèce de caillasse. Comment vous croyez que la Terre est arrivée ? L'humus est arrivé. Eh bien, c'est ces milliards d'animaux, de plantes, qui ont fait la Terre sur laquelle on vit. L'humus est très très important. Vous savez que aujourd'hui notre vie dépend énormément de la vie sur la Terre. Je crois que la biomasse des vers de terre, c'est-à-dire le poids, est 20 fois supérieur au poids des hommes sur la Terre. Vous imaginez ce qui se passe sous la Terre. Et je prépare un nouveau film qui est la suite de Legacy, un film sur la biodiversité pour raconter le vivant qui est autour de nous, donc qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez que dans votre ventre vous avez des millions de bactéries? Voilà, il y a plus de bactéries dans votre ventre qu'il y a d'étoiles dans l'atmosphère. Et les bactéries sont les animaux vivants, puisqu'on sort tous de là. Donc c'est raconter cette histoire. Et les arbres, ce qui est fascinant, c'est que l'arbre, il parle avec les champignons, ils échangent du sucre. Ils parlent entre eux, les arbres. Au Kenya, par exemple, quand les girafes commencent à manger dans un arbre, elles envoient une odeur, une phéromone, aux autres arbres pour leur dire « Attention, on est en train d'être bouffés ». Et les arbres émettent une odeur. Et les feuilles deviennent amères. C'est vrai que les girafes, elles commencent à manger un bosquet, et après elles vont assez loin, parce que tous les arbres autour savent qu'elles vont être bouffées, donc elles ont envoyé un produit pour que les feuilles soient pas bonnes à manger.
Mais il y a plein de choses qui se passent.
On connaît rien sur le vivant, c'est fascinant.
Mais vous allez, grâce à vous, on connaîtra tout, et vous reviendrez avec une vie quand vous voulez pour en parler.
Avec plaisir.
Je rappelle ce livre Cap 2030, une décennie pour changer le monde, chez Michel Lafon, et ce film Legacy qu'on peut voir, qu'on peut revoir sur les réseaux sociaux.
Je voudrais aussi rappeler que agir rend heureux et qu'on a tous une responsabilité, qu'on soit chauffeur de taxi, architecte, journaliste, on a comme une mission d'améliorer la vie sur Terre. Donc, et c'est ensemble qu'on y arrivera, on n'y arrivera pas tout seul.
Oh, je suis tout à fait d'accord, comme disait Pierre Dac, un pour tous, tous pour un et 10% pour l'impresario. Merci Yannat.
Je ne connaissais pas ça.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.